Bienvenue à Sans détour avec Isan Pellerin. Cette semaine, on reçoit Steve Charbonneau, directeur général de la Fondation des sports adaptés, ainsi que Mélanie Dion, réalisatrice de La Bourse des affaires, une émission à Ami Télé. Finalement, on reçoit également le docteur Félix Pajot, auteur du livre Robot and Gadget Aging at Home. On commence l'émission avec Steve Charbonneau, qui est directeur général de la Fondation des sports adaptés. Bonjour, M. Charbonneau.
Bon, bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, très bien, merci.
M. Charbonneau, certains vous connaissent à cause de votre carrière dans la CFL, donc dans la Ligue canadienne de football pour laquelle vous avez joué pour les Alouettes. Et maintenant, vous êtes donc directeur général de la Fondation des sports adaptés, qui est une fondation... comme on l'a dit, pour promouvoir les sports adaptés qui est à Bromont. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de la Fondation?
En fait, ça fait 30 ans cette année que la Fondation existe. C'est originaire d'ici. Là. Ça a été parti par un résident du lac Brome qui lui-même était amputé d'une jambe. Donc, il voulait partir un petit programme pour permettre à des gens qui vivaient en situation d'handicap là, de pouvoir... profiter des sports d'hiver, surtout le ski alpin. Donc, ça a démarré à AZ, une belle montagne qui est surnommée la montagne avec un cœur ici pour nous parce que c'est sans cette montagne-là, la Fondation n'existerait pas. Évidemment, après 20 ans, M. Peter Tracy, le fondateur, m'a recruté, en fait, pour l'aider à, je dirais, à relancer la Fondation et même aller un peu plus loin, un petit peu partout au Québec. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec une belle équipe de donateurs qui ont cru en notre projet, mais aussi une équipe de bénévoles, parce que sans les bénévoles, ben, il n'y a rien de tout ça qui serait possible. Puis aujourd'hui, 30 ans plus tard, ben la Fondation se retrouve un peu partout au Québec. Oui, notre siège social est ici à Bromont, mais on a des tentacules, là, des bureaux, des petites divisions ici et là, partout au Québec, là.
Et quel service vous offrez à la Fondation?
Ben, on a commencé avec un seul sport, le ski alpin. Donc, l'accompagnement près d'équipement et l'enseignement pour amener les gens à devenir autonomes le plus possible, là, aller chercher leur plein potentiel. Mais au cours des années, là, moi, depuis que je suis arrivé, ça fait 10 ans, et on a lancé différents programmes, puis on est rendu avec 11 disciplines différentes. Mais tous et toutes en plein air seulement.
Et qu'est-ce qui vous a convaincu de travailler avec la Fondation?
En fait, le défi, moi je suis, bon, évidemment, vous l'avez mentionné tantôt, je suis quelqu'un qui vient du sport, du milieu du sport. J'ai eu un gymnase aussi, une énergie cardio à l'époque. J'ai eu une compagnie d'importation dans les articles spécialisés dans les articles de sport et de gym. Et donc, pour moi, c'était comme un fit naturel, si je peux utiliser le terme, de permettre à des gens de pratiquer les sports de plein air, et ce, peu importe les limitations fonctionnelles. Et c'est sûr qu'au départ, j'ai pas menti, mais j'ai passé un peu rapidement sur le parcours, mais Peter Tracy, le fondateur, au départ, quand il est venu me voir pour solliciter mon aide, c'était pour l'aider à trouver un successeur. Peter était rendu à son deuxième ou troisième cancer, malheureusement. Il pensait pas passer à travers. Aujourd'hui, il est encore vivant. Mais à ce moment-là, il pensait que c'était pour être un peu plus difficile que ça. Et moi, je suis retourné à la maison le soir pour essayer de voir c'était quoi la Fondation des sports adaptés, pour être capable de mieux cibler des gens de mon entourage pour peut-être recruter un successeur à Peter. Et le lendemain, je l'ai rappelé, puis je lui ai dit que j'avais trouvé quelqu'un, puis c'était moi. Parce que je me suis senti interpellé, je me suis senti comme... Vous savez, quand on a eu carrière, on a fait carrière dans le sport, ou que ce soit en musique ou en cinéma, ou peu importe, comme acteur, on est souvent sollicité pour aller dans les campagnes des soupers gastronomiques, des campagnes de financement, participer à ça en tant que, entre guillemets, célébrité.
Oui, oui.
Mais j'ai jamais eu le sentiment de vraiment aider la cause, à part serrer des mains là, autour de la table, là, une table corporative. J'ai jamais vraiment senti que je faisais une différence. Il y a plusieurs années, j'avais parti une initiative, en fait, c'est une tournée motoneige de célébrité pour venir en aide au club des petits déjeuners. Ça, je dirais que quand je fais ça, là, je sentais que je faisais une différence. Puis, quand est venue l'opportunité, ben je me suis dit, pourquoi ne pas prendre la fondation qui avait une belle base de bénévoles, qui avait une belle structure? Je dis, pourquoi ne pas prendre cette fondation-là puis pousser davantage vers d'autres sports? Et c'est ce qu'on a fait. On a intégré le ski nautique, après ça, la planche à pagaie, le kayak, le vélo de montagne, le golf, etc. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, mais on a aussi mis en place des divisions. À Québec, on a une division Québec, on a une division Mauricie. Donc, on a des bénévoles dans ces régions-là qui font les sports que j'ai mentionnés à différentes hauteurs, différentes fréquences aussi. Mais c'est sûr que l'Estrie, notre gros bassin de bénévoles, est encore en Estrie parce que c'est là que ça a commencé. Puis c'est plus facile pour nous autres de recruter. Mais on est dans la Naudière, on est dans les Laurentides. On se promène vraiment partout au Québec avec l'unité mobile. Donc, je voyais en fondation un peu là où on est rendu aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à atteindre certaines cibles qu'on s'était données il y a 10 ans à mon arrivée. Et encore une fois, je dois remercier les donateurs et tous les bénévoles qui ont cru en notre projet d'expansion. Et on est là aujourd'hui. C'est pas fini, là. Ce n'est que le début, selon moi. Il y a un besoin criant dans toutes les régions du Québec. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter notre savoir-faire, nos connaissances. Évidemment, il y a un soutien financier qui vient de la Fondation aussi. Mais il faut mentionner que nous, on n'est pas subventionnés par le gouvernement. Là. Et chaque dollar accumulé, c'est des dollars qu'on doit trouver. On gratte, on cherche les donateurs pour pouvoir faire vivre la Fondation, évidemment, puis continuer à offrir des services.
Est-ce que vous faites des levées de fonds ou c'est plutôt des dons privés?
Ben, on a fait quelques levées de fonds. On a notre tournoi de golf annuel, évidemment. On a participé. Il y avait différentes initiatives à l'époque. On a cette année restructuré un petit peu notre façon de faire en ce qui concerne les événements qualitatifs, parce qu'on n'a pas les ressources. On n'a pas vraiment les ressources pour mettre beaucoup de temps là-dedans. Surtout avec un retour qui n'est pas nécessairement des gros montants. On est une petite fondation, les gens ne nous connaissent pas encore assez. Donc, à ce niveau-là, c'est difficile. Notre tournoi de golf, ça va bien quand même, mais on est loin de ramasser les sous qu'on voit des fois, le tournoi de golf de grandes causes là, qu'on connaît, là, les plus populaires. Oui. On est loin de tout ça. Fait qu'on prend vraiment nos ressources qu'on a pour faire des appels. On rencontre des gens, des grands donateurs, des fondations familiales, des choses comme ça. Puis on réussit à convaincre des gens d'embarquer dans cette folie-là. Mais vous savez quoi, quand j'ai lancé l'idée de prendre l'expansion, c'était pas du méconnu, dans le sens que au Vermont, au Maine, au New Hampshire, ils ont des fondations comme la nôtre qui font de grandes choses dans le plein air. Puis nous, on était strictement le ski alpin au départ. Puis je me suis dit, on n'est pas plus fous que les autres. Pourquoi qu'on ferait pas comme c'est peut-être pas le bon timing pour dire ça, mais pourquoi qu'on ferait pas comme les Américains? Mais c'est à ce moment-là, je trouvais que les Américains, ils étaient un petit peu...
Oui, mais ils ont fait des belles choses. Hein. C'est juste qu'il faut choisir nos idées.
Bon, il faut choisir nos idées, mais effectivement, on parle de ça aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est plus difficile avec ce qui se passe, mais c'est ça, l'idée, c'était vraiment d'être capable d'offrir 12 mois par année, des sports de plein air, une clientèle qui avait besoin d'accompagnement et d'équipement. C'est très dispendieux, l'équipement adapté. Donc, nous, on spécialise évidemment dans la formation des bénévoles qui accompagnent ces gens-là. On fournit les équipements. Puis, on essaie de garder ça, en fait, on réussit là, à garder ça le plus accessible possible. Au niveau financier, c'est symbolique. On charge un petit montant pour être sûr que les gens se présentent, mais c'est très symbolique. On n'est pas là pour faire des sous sur le dos des participants. Loin de là, on est là pour leur faire vivre une expérience incroyable. Puis on veut pas que l'argent, on veut pas que le volet financier soit un obstacle. Donc, souvent, c'est même gratuit. Là, ça dépend des activités. Mais on veut offrir des opportunités à ces gens-là de venir découvrir différentes disciplines. Puis, avec le temps, ben, il y en a qui viennent pour le ski alpin. Ensuite, ils découvrent qu'on a d'autres choses. Il y en a qui viennent pour le kayak, puis ils découvrent qu'on a du ski alpin. Vous voyez, quand je suis arrivé, on avait à peu près une trentaine de participants annuellement en ski alpin. L'année passée, on a eu 1200 participants dans 11 disciplines différentes avec 250 bénévoles.
C'est quand même énorme.
Fait que on a, oui, exactement. Puis mon rôle, c'est de porter le chapeau du monsieur qui va chercher des sous, mais je suis aussi très terrain. Fait que je suis autant au niveau administratif avec ma petite équipe.
Vous êtes un formateur également.
Oui, exactement. Ben, c'est important pour nous, comme je disais, que les participants puissent aller chercher leur plein potentiel. Il y a des gens qui viennent, il y a une catégorie de participants qui viennent pour vraiment juste dévaler les pentes puis avoir le sentiment du vent dans leur visage et tout ça, sans toutefois vouloir devenir autonome un jour. Des fois, ils n'ont pas la capacité physique pour le faire, mais d'être là puis vraiment prendre avantage de chaque rayon de soleil dans leur visage quand on descend les pentes ou quand on est sur l'eau, sur les bassins d'eau à skier, en ski nautique, ben c'est ça qu'on veut faire vivre. On veut leur faire vivre aussi des sensations fortes pour eux, pour des fois. Moi, je dis souvent, on les sort pas de leur zone de confort, mais on les sort de leur zone d'inconfort. Parce qu'il y a personne qui est en fauteuil, qui est super confortable, puis nous, le temps d'une activité, des fois, ben ils oublient leurs conditions. Puis on est là aussi pour le sport devient un prétexte des fois. On est là pour socialiser. Pour on est une grande famille. On voit pas les handicaps, on voit pas les différences des gens. Tout le monde est au même niveau, bénévole, participant. On mange souvent ensemble. Il y a vraiment le côté social très développé à la Fondation et familial, je dirais, à certains points. Et quand on fait une activité, exemple, 3 heures ou 4 heures de ski alpin, ben, des fois, la famille nous attend dans le chalet, mais des fois, elle est sur la pente de ski avec nous. Et c'est quasiment, je dirais, un petit moment de répit pour la famille, des fois.
Ah, clairement.
Ben oui. Fait qu'on a, il y a une prise en charge qui se fait, là, de nos bénévoles quasiment à partir de la voiture jusqu'au sommet de la montagne.
Et rapidement, quels sont vos futurs projets pour la Fondation?
Ben, je dirais que c'est celle de continuer à essayer de recruter des acteurs du milieu dans différentes régions du Québec. Nous, on est là comme, je dirais, entre guillemets, comme un franchiseur. Dans le fond, on veut partager nos connaissances avec des gens partout au Québec, puis être capable de leur fournir les équipements, toute l'expertise qu'on a développée en 30 ans dans différents sports, mais avoir un acteur très fort, des gens très impliqués localement dans différentes régions pour se joindre à notre équipe et que nous, on soit capable d'appuyer cette personne-là là, vraiment au niveau assurance, formation, etc., pour qu'on soit capable d'offrir davantage d'activités partout en région ou au Québec. Là où, ben évidemment, ces opportunités-là sont très rares, voire absentes, parce que faut mobiliser beaucoup de gens et de ressources pour être capable d'accueillir des gens à faire du ski nautique, par exemple. Ça prend beaucoup de ressources, mais nous, on est là. On se déplace. et on réussit à travailler avec les régions. On a une histoire à succès à Québec avec Stoneham et le ski le relais. Et l'été, maintenant, on est là au lac Saint-Joseph pour le ski nautique. Fait que chaque région développe les activités différentes, des fois, selon les besoins du milieu. Et c'est ça qu'on fait. En fait, on a besoin de trouver des gens dans différentes régions pour nous aider à continuer à prendre l'expansion.
Parfait. Donc, pour les auditeurs et les auditrices qui sont à l'écoute, qui voudraient vous aider ou en apprendre plus sur la Fondation des sports adaptés, ils peuvent aller sur le site internet sportadaptés.ca. Merci, Steve Charbonneau, directeur général de la Fondation des sports adaptés. Merci de votre implication et je vous souhaite bonne chance pour la nouvelle année avec la Fondation.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Bonne journée, bye-bye.
On retrouve maintenant Mélanie Dion, qui est réalisatrice de la série documentaire « La bosse des affaires » à AMI-TV. Bonjour, Mme Dion.
Bonjour, Élisane. Grand plaisir d'être à votre micro aujourd'hui.
Merci. Un grand plaisir pour nous de vous recevoir pour parler justement de la nouvelle série documentaire « La bosse des affaires » qui parle d'entrepreneurs en situation d'handicap, qui suit en fait des entrepreneurs en situation d'handicap. Pouvez-vous nous parler du projet?
Oui, ben en fait, la série, c'est comme vous disiez, on suit 6 entrepreneurs. Donc, il y a des duos là-dedans. Donc, c'est 4 entreprises. Et on les suit dans leur quotidien professionnel, mais aussi dans leur quotidien personnel. Donc, c'est comme à la fois une incursion dans le monde de l'entrepreneuriat. Qui a des hauts, des bas, qui a beaucoup... en fait, on le sait, les entrepreneurs, à la base, c'est des gens qui comptent pas leurs heures, c'est des gens qui ont de l'ambition, qui sont passionnés, qui ont pas peur de relever des défis, mais de le faire en plus avec des gens qui sont en situation de handicap et qui ont en même temps à gérer une complexité, des difficultés personnelles en lien avec ce handicap-là, ça rendait ça très... très humain, puis il y a plein d'enjeux dans son qui sont dont on parle au fil des épisodes.
Et qu'est-ce qui fait en sorte que la série documentaire se distingue selon vous des autres séries qu'on aurait vues là, sur l'entrepreneuriat ou sur la vie des personnes en situation de handicap?
Ben en fait, moi, quand on m'a parlé du projet, je venais de terminer une autre émission, une autre série documentaire à AmiTélé, toujours, L'envers de Vestiaire. Puis, tous les gens à qui je parlais me parlaient beaucoup de cette discrimination-là qu'il y a dans le monde du travail. Bon, on le sait, mais de faire une incursion à travers des gens qui ont décidé de faire leur propre, d'être leur propre boss, de faire leur propre plat.
De se donner un travail, finalement.
De se donner un travail qui est à leur image, qui respectent qu'ils sont, ben c'est une façon positive d'aller à la rencontre de l'autre aussi. Puis c'est vraiment des gens qui repoussent les limites, qui défoncent des barrières. Si je peux te donner quelques exemples, donc dans la série, on a Daniel Bonin et Marie Sauvé qui sont propriétaires de la Canne Blanche, qui tous les deux sont non-voyants. Ils ont été médiatisés quand même un peu les dernières années parce que leur histoire est tellement extraordinaire. Mais tu vois, ce que Daniel nous racontait, c'est que lui, avant d'être entrepreneur, il était comme pas capable de se projeter dans l'avenir parce que le fait d'être employé, souvent, il voguait de subvention en subvention sans savoir si au bout de 6 mois, la subvention allait être retirée. Ou... C'est vraiment des gens qui en ayant un projet personnel, peuvent maintenant se projeter dans l'avenir et avoir un travail qui est fait sur mesure pour eux, finalement.
Oui, qui correspond à leurs besoins. J'imagine, des fois, ils ont des besoins particuliers au niveau des horaires, puis au niveau des heures de travail, par exemple, ou peu importe. Là.
Exactement, exactement. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, à force de côtoyer tous ces entrepreneurs-là, je vois vraiment un parallèle aussi entre leur parcours personnel, en lien avec leur handicap, et leur parcours d'entrepreneur. Parce que c'est comme si le fait d'avoir vécu des épreuves, ils ont une capacité d'adaptation puis de résilience qui est comme une qui est si importante quand tu es un entrepreneur, parce qu'il faut que tu sais, c'est pas vrai que tu vas être entrepreneur puis que tu n'auras pas de défis puis que tu vas pas parfois avoir des échecs, mais c'est vraiment des gens qui sont capables de surmonter les défis, pas se décourager, être capable de se relever quand ça va pas bien. Fait que c'est ce qui se dégage là, des expériences de nos intervenants.
Puis j'imagine aussi là, que ça montre la situation de handicap de façon plus positive. Hein. On a l'habitude de voir un peu avec un regard des fois misérabiliste ou avec pitié sur les personnes en situation de handicap dans les médias. Là, on voit des gens qui réussissent.
Exactement. Puis plus que ça, c'est comme si, je vais te donner l'exemple de Basile Soulama qu'on a rencontré à Sherbrooke, qui nous racontait que même vis-à-vis lui, son propre regard avait changé, parce que avant, quand on l'abordait dans la rue, ben tu sais, c'était beaucoup le regard sur le handicap, hein, quand oui. C'était roulant, pourquoi. Bon, et à force de faire connaître son entreprise, d'avoir des entrevues dans les journaux de la région, d'être de plus en plus connu, les gens maintenant ont changé le regard qu'ils ont sur lui, s'intéressent à son parcours d'entrepreneur, et par ricochet, ça fait un changement au niveau du regard que tu portes vers toi. C'est la même chose avec François Bernier. François, il y a une compagnie qui s'appelle Horizon B2B, qui est une agence de marketing qui aide les gens à faire leur marque via LinkedIn. Lui, il est atteint d'amyotrophie spinale. Alors, toute sa musculation s'est pas développée, il est en fauteuil roulant. Puis même lui, au départ, il fait beaucoup de télétravail, il y a beaucoup de rencontres par le biais des réseaux sociaux, mais à distance. Puis au départ, il mettait pas sa caméra, il voulait pas allumer sa caméra de la peur du regard de l'autre par rapport à sa situation. Puis au fil de son expérience comme entrepreneur, ben puis il s'est mis à ouvrir sa caméra, tu sais, puis les gens réagissent bien à ça. Mais pour lui, c'est devenu une force parce qu'il se dit, moi, je marque les esprits. Puis de toute façon, si les gens veulent pas me faire confiance à cause de ça, ben, tu sais, c'est pas nécessairement les clients avec qui j'ai envie de travailler.
Oui, voilà, c'est pas des clients qui répondent à ces valeurs, en fait.
Exact, exact.
Bien, c'est beau de voir, en fait, à quel point non seulement ça aide la cause du handicap de façon générale, mais à quel point ça peut aider les personnes sur un plan personnel aussi.
Exactement, exactement. Puis c'est vraiment des gens, tu regardes, ça fait cliché de le dire, mais ils sont inspirants. Puis, tu sais, j'ai vraiment envie que des gens de tout horizon voient cette série-là parce que ça nous pousse à nous-mêmes nous se remettre en question puis voir, tu sais, Mathieu le dit bien à un moment donné dans la série, Mathieu qui est gestionnaire immobilier, tu sais, qui pour lui, écoute, il construit des immeubles de plusieurs étages, puis il a une vision très, il a une vision à long terme très grande là, de son entreprise. Puis lui me disait, tu sais, moi je me suis dit à un moment donné, regarde, peu importe où tu es dans ta vie, l'important c'est de retrouver ton 100%. Puis ça s'applique à tout le monde. Oui. Comme quoi les limites, des fois c'est dans notre tête, puis on se met nous-mêmes des blocages, mais en voyant leur parcours, c'est sûr qu'on est on est inspiré.
Et rapidement, Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus? Est-ce qu'il y a un moment dans la série où vous vous êtes dit vraiment ça me touche particulièrement?
Ben, c'est sûr qu'il y a eu des moments touchants. Tu vois, Maryse de la canne blanche, qui elle aussi, elle et Daniel sont non-voyants, mais Maryse, elle avait une vision résiduelle. Puis là, de fil en aiguille, elle est vraiment en train de tout perdre. Oui. Ce qui lui restait de vision. Puis, tu sais, à force de... Tu sais, nous, on a étalé des tournages quand même sur une plus longue période.
Pour vous l'avez accompagné dans son deuil, en fait.
Oui, ben en tout cas, elle a eu cette ouverture-là de nous laisser rentrer dans son intimité, de nous montrer cette difficulté-là, puis nous parler comment elle se sentait par rapport à ce déclin-là. Fait que c'est des moments comme ça, en fait, quand on touche à l'humanité des gens, puis que les gens s'ouvrent sur leur intimité, ça fait des moments très riches.
Madame Dion, merci d'avoir été avec nous. Votre série documentaire « Il y a buzz des affaires » est disponible déjà sur AmiTélé et sur Internet, sur le site d'AmiTélé. On peut la voir diffusée à la télévision, donc mercredi à 21h également. On vous souhaite bonne chance à vos futurs projets et on a hâte de rencontrer les entrepreneurs.
Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Bye.
Tous les jours, sans détour.
On rejoint maintenant le docteur Félix Pajot, qui est gériatre, bioéthnicien et auteur, qui a co-dirigé l'ouvrage Robots and Gadgets Aging at Home. Bonjour, monsieur Pajot.
Bonjour.
Donc, le livre Robots and Gadgets Aging at Home, ça parle en fait de... Les aides à domicile pour les personnes âgées, mais qui peuvent aussi s'appliquer donc aux personnes en situation de handicap.
Oui, effectivement, là, l'idée des robots, des applications d'intelligence artificielle, de maisons connectées, c'est pour aider les gens qui ont une autonomie différente ou qui sont en perte d'autonomie, en fait, liée aux problèmes cognitifs, au vieillissement. Donc, on parle de gérontechnologie, mais effectivement, toute personne en situation de handicap pourrait bénéficier éventuellement de technologies du genre.
Qu'est-ce qui vous a porté à vous intéresser à cette question-là?
Ben moi, je suis gériatre et aussi j'ai fait une maîtrise en philosophie et en éthique. Donc, ça lie mes deux intérêts. Donc, la question à la fois de la population gériatrique. Donc, quand on parle de population gériatrique, c'est des gens âgés, oui, mais pas seulement. Des gens qui ont quand même des pertes cognitives, des problèmes de mobilité, souvent qui sont acquises par des maladies diverses, là, des problèmes d'arthrose, des problèmes des nouveaux nerveux, des nerfs, des neuropathies, des choses comme ça, et des troubles cognitifs. Donc, les gens, tranquillement, en vieillissant et en accumulant des maladies, deviennent de moins en moins autonomes dans leur maison. Puis, l'industrie propose toutes sortes de technologie pour les accompagner dans ces pertes d'autonomie fonctionnelle, là, vraiment au niveau de faire les tâches quotidiennes. Puis, il y a quand même des risques éthiques, des problématiques éthiques, des dilemmes éthiques qui peuvent survenir. Donc, de là, mon intérêt pour ces questions de la robotique, mais aussi là, tout ce qui est application d'intelligence artificielle, surveillance du domicile, parce que les gens en veulent pour rester chez eux plus longtemps, mais en même temps, à quel prix? C'est là les questions qui m'intéressaient.
Effectivement, c'est quelque chose de complexe parce que ça peut donner une certaine liberté, mais en même temps, ça peut aussi restreindre la liberté jusqu'à un certain point. Parlez-nous, il y a des gens certifiés dans les maisons pour aider les soins aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. À quoi ça peut ressembler?
Bien, il y a plusieurs technologies. Disons, si on prend vraiment la maison imaginée du futur qui est connectée au complet, on penserait à des capteurs, soit thermiques, soit de mouvement, ou des capteurs même de caméra pour prendre des images. Puis ces images-là détectées seraient ensuite envoyées à un programme d'intelligence artificielle qui pourrait dire est-ce que c'est, il y a, par exemple, il y a une chute, est-ce qu'il y a un feu, est-ce qu'il y a un problème. Ça pourrait être connecté aussi à des détecteurs de fumée, des détecteurs au sol, des détecteurs sur le corps de la personne, là, à la fois des montres ou des colis qui détectent les signes vitaux, donc la pression artérielle, le rythme cardiaque. Donc, toutes ces informations-là qui viennent soit directement des informations connectées sur la personne, des informations à distance avec des capteurs, des informations avec des capteurs au sol, tout ça serait des informations intégrées dans un ordinateur, disons, central avec un programme d'intelligence artificielle pour dire, ben là, oui, il y a un problème ou non, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, la personne continue à vivre sa vie, à faire ses choses. S'il y a un problème, bon, est-ce qu'on détecte, est-ce qu'on envoie un appel à l'aide au 901? Est-ce qu'on envoie un appel au service d'aide d'une infirmière de l'infosanté? Est-ce qu'on appelle directement l'hôpital, un médecin traitant? Est-ce qu'on a rejoint la famille, des proches? Donc, ensuite, c'est ça. Donc, l'intelligence artificielle pourrait être détectée. Puis, à la limite, envoyer des robots. Donc, si la personne est tombée, est-ce qu'un robot pourrait être envoyé par la maison directement pour relever la personne? Ça, c'est une des choses quand on parle de chute, par exemple. Mais il faudra aussi avoir, quand la personne a de la difficulté à se cuisiner elle-même des repas, avec les atteintes cognitives, un robot qui pourrait cuisiner des repas, un réfrigérateur connecté qui pourrait détecter si la nourriture est périmée ou s'il manque de lait, s'il manque d'œuf. Puis envoyer directement une commande à l'épicerie, puis un robot viendrait livrer la nourriture directement à la maison, déposée dans le réfrigérateur. Donc, on pourrait penser vraiment à une maison connectée pour détecter les choses, mais aussi pour remplacer finalement les tâches des proches aidants ou du système actuel du CDC ou autre soutien à domicile. Donc, c'est vraiment l'idée de pallier à tous les manques que peuvent occasionner les atteintes cognitives ou les problèmes de mobilité en général ou ce qu'on appelle noir en gériatrie, la fragilité, donc l'accumulation de problématiques de santé. Donc, ce serait l'idée.
Vous parliez également dans votre livre que l'intelligence artificielle pourrait aider les préposés à domicile, mais vous parliez du fait de pouvoir les aider à avoir une relation plus humaine avec leurs clients. Comment l'intelligence artificielle peut rendre les relations plus humaines? C'est pas quelque chose qui est contradictoire, en quelque sorte?
Ben ça pourrait l'être, effectivement. C'est l'idée de l'éthique, c'est d'aller guider justement dans la direction. L'éthique nous dit, ben c'est quoi qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les principes qu'on veut suivre pour arriver à un certain but éventuellement. Puis effectivement, quand on veut garder les soins plus humains, ben peut-être que la machine peut faire les tâches répétitives, justement s'assurer qu'on a bien commandé la nourriture, qu'on n'a pas de nourriture avariée, qu'il y a un certain niveau le ménage est fait, donc c'est passer la balayeuse, c'est pas nécessairement un soin humain, ou faire le lavage, c'est pas nécessairement un soin humain en soi. Donc, toutes les tâches qui sont répétitives, abrutissantes ou désagréables pour la personne ou ses proches, mais ça serait pris en charge par la robotique. La personne, elle, et son proche, ou les proches aidants, ou le personnel soignant du CLSC ou autre, ferait justement bon plus passer de temps à faire des activités agréables, discuter, prendre un café, faire le soin d'hygiène en soi. Donc, vraiment, l'éthique pourrait guider à dire, ben, c'est quoi qui est important pour la personne? Qu'est-ce qui représente un soin humain pour la personne et les soignants? Puis, laisser ces soins-là aux personnes humaines. Puis, tout ce qui est des soins qui sont désagréables, déshumanisants ou répétitifs, abrutissants, ben, serait fait par la machine. Ça, c'est l'idéal, mais effectivement, il y a quand même un risque que ce ne soit pas exactement ça qui se passe, dépendamment de la programmation ou de la façon qu'on oriente les soins. Donc, l'idée de l'éthique, c'est de guider justement ça. Cette intelligence artificielle-là ou le développement de la robotique pour atteindre le but de garder les soins humains.
Ça pourrait quand même donner plus de temps aux préposés ou aux proches aidants là, avec la personne pour avoir du temps de qualité. Et on sait que les soins à domicile, là, on coupe de plus en plus dans les services. Donc, les préposés ou les proches aidants en font de plus en plus parce qu'on a de moins en moins de services qui font en sorte qu'ils sont, ils sont débordés, en fait.
Ben c'est ça. On manque de personnel partout. On a aussi des proches aidants souvent qui vont s'épuiser, ils ont fait des promesses, ils sont très dévoués, puis ils veulent pas laisser tomber en guillemets leurs proches, donc ils vont en faire beaucoup, des fois trop même à s'épuiser. Puis le réseau, ben, il palie plus comme il faisait avant. Là, l'État providence, on n'est plus là du tout. Là, on est vraiment dans un virage. La nouvelle administration publique de dire on réduit les coûts, on est plus efficace. Mais c'est pas des voitures ou des autos comme la méthode Toyota qu'on traite, c'est des êtres humains, puis avec leurs limites, leurs difficultés. Puis effectivement, quand on met sur l'efficience, ben des fois, l'efficacité, on coupe un peu dans ce qui humanise les soins et on fait des tâches plus répétitives. Et c'est le risque avec la robotique, effectivement, que le robot ou l'intelligence artificielle se mettent à discuter avec la personne, à avoir des relations, puis que les êtres humains soient reliés à des tâches répétitives et abrutissantes. Puis c'est plutôt l'inverse qu'on veut, le robot qui soit un outil, puis l'être humain qui continue à faire des soins au sens large du care à l'anglaise, où on se soucie, on est empathique, on prend le temps de jaser, de s'asseoir, de discuter, mais effectivement, de nos jours, c'est un idéal qui est difficile à atteindre ou à suivre.
C'est quand même intéressant dans votre livre là, que j'ai eu dans les derniers jours, c'est que oui, d'un côté, vous faites un peu l'éloge de l'intelligence artificielle puis des possibilités qu'on a, mais votre livre touche aussi hein, toutes les questions d'éthique, donc à quel point ça a deux côtés, en fait. Là. Donc ça, c'est intéressant. Et comment on peut... comment on évite les dérapages... consciemment avec IA, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les dérapages?
Bien, je pense que c'est justement d'être conscient que oui, il y a des bénéfices, oui, c'est une bonne chose, qu'il y a toute une industrie derrière qui pousse quand même la technologie.
Oui, quand même, il y a beaucoup de gens qui poussent pour en mettre un peu partout, peut-être trop même.
Il y a tout un marketing, ce qu'on appelle le hype, c'est quand même, c'est le fun, c'est nouveau, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de choses qui vont être utiles parce que justement à cause du contexte social actuel, qui vont nécessiter avec le vieillissement de la population, le personnel qui est en nombre restreint, les familles qui s'épuisent, les gens font moins d'enfants, donc il y a moins de personnes pour s'occuper des aînés. Donc effectivement, il y a toute une pression sociale à la fois du manque d'aide puis de l'autre côté de l'industrie qui pousse beaucoup. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans la solution magique puis penser que tout est rose et beau. Donc, oui, il y a beaucoup de bons, mais effectivement, il y a un risque que ça soit moins bon et mauvais. Donc, l'éthique a ce rôle-là aussi de mettre des garde-fous, de contrôler finalement les dérapages dont l'Observatoire, le BIA au Québec, là, qui s'occupe spécifiquement de ces questions-là. Il y a eu un gros sommet en France avec le Canada récemment. Donc, l'intelligence artificielle est beaucoup poussée aussi aux États-Unis avec le nouveau président, puis Elon Musk, on s'en sort pas. Donc, il y a quand même un gros, une force vers l'avant qui pousse pour que les technologies soient mises dans les soins. Mais effectivement, il faut penser où on s'en va. C'est le but de l'éthique de penser qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on s'en va, puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis de peser les pour et les contre, effectivement.
C'est quoi le rôle de monsieur, madame, tout le monde dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'informe, on se questionne comme population qui ne sont pas des experts comme vous?
Ben oui, effectivement, parce que l'éthique, on a tous un peu un sens en dedans de nous de se dire, quand on dit ah, ça n'a pas de bon sens, ou ça c'est donc bien mauvais, ou ça vaut rien, ou ça je veux pas faire ça. On a un peu le sens en dedans de nous, c'est de le cultiver, en fait, ce qu'on appelle. Le sens éthique ou puis même le courage éthique, des fois de mettre son pied à terre, de dire non, moi c'est vraiment quelque chose que je veux pas. Puis ou à l'inverse, de dire ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que je veux, je reconnais que c'est valable pour moi, c'est bon. C'est pas plus compliqué que ça, l'éthique, en fait, c'est des fois on est un peu aveuglé aussi, on le reconnaît pas toujours, on n'ose pas parler, on n'ose pas mettre son pied à terre, puis des fois on se rend compte qu'en parlant, on est plusieurs à penser la même chose, puis que telle ou telle chose n'est pas nécessairement adéquate. Donc, la force du nombre, là, comme on peut dire. Donc, effectivement, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, quand mettant l'opérateur, ils ne sont pas d'accord avec quelque chose qui va changer les choses, parce que c'est vrai que tout seul, dans son coin, si on n'est pas d'accord, on va se le faire imposer, versus si on est plusieurs à parler, à dire que ce n'est pas adéquat, puis à dire pourquoi, effectivement. Donc, c'est de cultiver ça ce sens-là qu'on a tous un petit peu en nous, mais des fois qu'on oublie ou qu'on se fait mettre de côté.
Est-ce qu'il y a des ressources pour apprendre un peu plus à s'informer hein, au niveau des enjeux éthiques là, pour les gens que ça intéresserait d'en savoir plus puis de mieux connaître ça pour justement être un citoyen, un bon citoyen, une bonne citoyenne? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont accessibles là, pour les gens qui ne sont pas dans le domaine universitaire?
Oui, bien, c'est sûr que le livre qu'on a publié, ça s'adressait plus à un public universitaire. On vise à faire une deuxième édition plus grand public. Il y a quand même plusieurs ouvrages sur l'éthique de l'intelligence artificielle, le grand public. Il y a l'Observatoire sur l'intelligence artificielle et l'utilisation des données, là, le OBVIA, O-B-V-I-A, qui ont des ressources plus grand public. Mais c'est ça, puis d'écouter le genre d'émission que vous faites aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, c'est de rester à l'affût de ce qui existe. Puis il y a toutes sortes de niveaux de littératie au sens où il y a des choses qui sont très grand public, des choses qui sont très spécialisées. J'avoue que le livre qu'on écrit est plus spécialisé, mais on vise le plus grand public éventuellement.
Oui, c'est quand même difficile à lire hein, pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi en intelligence artificielle. Là, j'ai quand même eu besoin de Google à quelques reprises, mais ça demeure très intéressant. Donc, le livre, pour l'instant aussi, est en anglais seulement. Est-ce qu'il y a une version francophone qui va apparaître?
Bien, c'est ça. C'est toujours l'enjeu du financement. Là, on travaille justement à faire financer une traduction encore là plus universitaire en français, puis une version en français encore là. Mais plus grand public. Dans les prochains mois, là, rester à l'affût sans vouloir faire de la publicité, mais l'idée, c'est oui, de permettre l'accès au plus grand nombre là, à ce genre de connaissances-là. Parce qu'effectivement, des fois, l'éthique, ça fait peur, la robotique aussi. Au final, comme je dis, on a tous un peu ce sens-là en dedans de nous.
Vous avez le droit de faire de la publicité, c'est votre projet, vous y avez travaillé longtemps, donc je vous donne le droit. Mais donc pour ceux qui sont quand même à l'aise en anglais, où on peut se procurer le livre en ce moment?
C'est auprès de l'Université Laval, si vous faites une recherche dans Google ou autre moteur de recherche, mais sur le site de l'Université des presses de l'Université Laval, il est disponible en ce moment.
Est-ce qu'il est disponible en format PDF ou seulement en format papier?
Les deux.
Les deux? Parfait.
Papier, oui.
Donc, on invite les auditeurs et les auditrices à aller voir les presses de l'Université Laval qui, d'ailleurs, publient plusieurs livres intéressants là, chaque année qui viennent du monde universitaire, mais dans différents domaines. Et ils pourront y trouver, entre autres, votre livre qui est très intéressant, comme je le disais tout à l'heure, pour celles et ceux qui parlent anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ben on attend une version francophone dans les prochaines années. On espère que ce sera possible pour vous. En terminant, c'est quoi vos futurs projets? Vous avez parlé évidemment pour le livre d'une autre édition un peu plus grand public, mais outre ça, quels sont vos projets, Dr. Pageau, pour la suite?
Oui, ben j'ai eu un financement de recherche important là, pour étudier la qualité des soins gériatriques, dont l'initiation des technologies d'un point de vue éthique. Donc, un projet plus large des déploiements là, dans la région de Québec, à la clinique de gériatrie de Québec, avec toute l'équipe, pour améliorer nos soins et évaluer justement les technologies qu'on utilise. Puis d'autres projets là, avec des équipes sur les deepfakes, la création de deepfakes, donc éduquer un peu plus la population avec Nadia Nassi, justement avec l'OBVIA qui nous a donné un financement. Donc, toutes sortes de projets au niveau technologique. Je m'intéresse aussi aux questions des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, quelle répercussion ça a, à quel point les gens le font en pleine connaissance de cause et quel impact ça peut avoir sur les soins gériatriques, entre autres. Donc
vous allez être occupé dans les prochains mois, c'est ce qu'on comprend?
Oui, j'arrête pas.
Donc, merci d'être venu. Pour les gens qui veulent se procurer le livre, je rappelle, c'est à l'université, auprès de l'Université Laval, donc, qu'on peut trouver sur Internet. Donc, une petite recherche Google s'impose là, pour ceux qui sont intéressés à lire le livre. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci de vous intéresser à ce sujet.
C'était le Dr. Félix Pageau, gériatre bio-ethnicien et auteur pour parler de l'intelligence artificielle et de la suite des soins pour les personnes en situation de handicap et les personnes en gériatrie. Après la pause, on va voir quelques nouvelles. On se retrouve maintenant avec les nouvelles pour la semaine. Donc, on commence en Italie, où le code de la route, qui est un nouveau code qui a été mis en place, inquiète les personnes en situation de handicap et les groupes de militants pour les droits des personnes en situation de handicap, parce que il y a des enjeux au niveau de la prise de médication. En fait, le nouveau code dit que l'utilisation de médicaments est totalement proscrit. Donc, qu'une personne qui prend des médicaments et qui prend le volant pourrait être accusée donc de conduire avec les facultés affaiblies. Et même si personne n'est contre la vertu, bien sûr, et que tout le monde s'entend pour dire que de conduire avec les facultés affaiblies, évidemment, est dangereux et que c'est un délit, reste que ça pourrait emmener à de fausses accusations pour les personnes qui prennent des médicaments qui sont prescrits, entre autres des anti-anxiolytiques ou des antidépresseurs qui pourraient donner de faux positifs lors de tests de salive imposés par la nouvelle réglementation. Ainsi, la nouvelle réglementation aussi suscite l'inquiétude de nombreux médecins et d'associations parce que, justement, on ne précise pas si les médicaments qui sont prescrits pour des besoins de santé, parfois des médicaments évidemment qui sont vitaux pour les personnes en situation de handicap ou en situation donc d'enjeu psychologique, peuvent prendre ces médications-là ou pas. Et s'ils peuvent conduire après avoir pris ces médications-là, et on parle, entre autres, là, de médicaments qu'il faut prendre tous les jours. Donc, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui prend, par exemple, des antidépresseurs à chaque jour n'a plus le droit de conduire, donc, pour se rendre au travail, par exemple? Donc, ça pose, évidemment, des enjeux éthique, mais aussi ça pose un enjeu d'accessibilité du travail pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes qui ont des enjeux psychologiques. Est-ce que se rendre au travail va devenir difficile? Est-ce que ça va causer un obstacle supplémentaire au travail pour les personnes qui ont des enjeux psychologiques ou des enjeux d'handicap physique? Donc, c'est la réforme de l'article 187 du Code de la route qui cause problème. Parce que il y a un nouveau texte, donc, en éliminant la condition de perturbation psychopsychique établie que la simple consommation de substances stupéfiantes ou psychotropes peut suffire à encourir des sanctions sans complément d'information, donc sans expliquer si certains médicaments sont acceptés et sous quelles conditions, par exemple, les médicaments prescrits par un médecin. Comme l'a souligné le Syndicat national de pharmacie UNIT, avec cette réforme, les personnes prenant certains médicaments pourraient être discriminées dans leur capacité à la fois de se rendre sur les lieux de travail, mais aussi dans leur autonomie, dans le fait de pouvoir donc conduire leur véhicule. C'est aussi le cas, évidemment, là, de personnes, par exemple, des personnes épileptiques. Il y a plusieurs associations de personnes épileptiques qui se sont fait entendre auprès du ministère de la Santé ou du ministère des Infrastructures en demandant des clarifications parce qu'on ne sait pas, en fait, si on est épileptique, quand on prend des médicaments, donc à tous les jours, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'aller de conduire et de se rendre au travail? Donc, on attend des précisions à ce niveau-là en Italie, mais pour l'instant, on n'a pas eu de réaction de la part du gouvernement et on n'a pas eu de précision sur ce qui pourrait ou non être accepté. Les groupes de militants veulent qu'on rédige le texte avec des exceptions claires pour que les gens puissent savoir à quoi s'attendre.
C'est ça. Ben, je me permets, c'est pas parce que les médicaments les rendent la conduite dangereuse, c'est juste qu'en cas de contrôle,
oui,
le médicament pourrait être perçu comme une...
Évidemment, il y a certains médicaments qui rendent également la conduite dangereuse, qui doivent être donc contrôlés, mais tout ça doit être écrit dans le texte, et pour l'instant, il n'y a rien écrit dans le texte. Donc, ça pourrait causer, évidemment, c'est ça, des faux positifs et des gens qui se font arrêter et des gens qui sont sous interdiction de conduire parce qu'il y a eu un test positif. Parfois, on se fait, quand on est en situation de handicap, on se fait intercepter et ça peut causer donc des malentendus sur la condition. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent arriver au quotidien aux personnes en situation de handicap. Donc, on parle également de la réduction des services aux familles en situation de handicap. On a parlé avec le docteur Pazot tout à l'heure. L'Alliance du professionnel du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux des Laurentides dénonce une réduction drastique des services des soutiens aux familles et aux personnes en situation de handicap dans les Laurentides. Il y a décision du CISS des Laurentides de couper de moitié l'accessibilité au chèque emploi-service qui permettait d'accompagner les familles, les adultes et les enfants ayant des besoins particuliers, entre autres en aide à domicile. Une coupure de moitié, évidemment, c'est énorme et ça a été fait sans préavis. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et donc, on dénonce évidemment les coupures parce que des gens qui avaient droit à des services qui vont être réduits de plus de la moitié de leurs heures. Finalement, on a aussi, on termine avec une bonne nouvelle, c'est 20 ans pour le seul gym adapté en Mauricie. Donc, un gym adapté en Mauricie pour les personnes en situation de handicap qui accepte maintenant également des personnes en situation de handicap intellectuel. Donc, 500 personnes qui ont pu bénéficier du service et des équipements qui sont mis à disposition dans ce gym-là dans les derniers 20 ans. C'est une OSBL, en fait, qui a réussi à faire fonctionner à partir de subventions qui viennent principalement de l'unité régionale de loisirs et de sports. Donc, Adaptaforme est installé au service, à même les locaux du service de la réadaptation à déficience physique. Les personnes en situation de handicap peuvent aller s'entraîner gratuitement là où ils sont dans ce centre et c'est ouvert à tous les gens de la région de la Mauricie. Donc, on salue l'initiative qui a 20 ans et ça pourrait peut-être montrer exemple pour avoir d'autres gyms adaptés à des personnes en situation de handicap au sein de différents services sociaux ou au sein de différentes régions pour évidemment pousser les gens en situation de handicap à mieux faire de l'exercice. C'est tout pour nous pour cette semaine. Vous avez écouté Sans détour. Merci à Mathieu Tessier. À la console, merci également à Pierre Guérin à la recherche et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine!